Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI, l'émission de toutes les finales ce week-end. On a parlé NBA et Basketball Africa League hier, place à Roland-Garros aujourd'hui, duel de ténors, de nouveaux ténors du circuit sur la terre battue parisienne, duel de ténors sur le papier. En tout cas, c'était très alléchant. Qu'en est-il sur le court ? On voit ça dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, la chanson de Roland ne vaut pas uniquement pour son dernier couplet. Derrière la finale des hommes, chercher les femmes. Nous reviendrons aussi sur le succès de Coco Gauff hier, digne héritière de Serena Williams. Nous reviendrons sur la sensation Loïs Boisson. Globalement, Mondial Sport fait le bilan de ce Roland Cru 2025, servi un peu frais au niveau de la météo, mais plaisant. Roland qui ne sera pas, ce Roland 2025, le grand chelem du record pour un certain Novak Djokovic.
Only where love is written in capitals. Only the clay where champions fight. Only the glide, the slide, the might. Only endurance until the night. Only where tennis and everybody rhymes. Only where hats fit on every head. Only where clay marks passion in red. Only where rituals leave a trace. Only a stage for courage and fire. Only here, where all dreams transpire. Only at Roland Garros.
C'est avec lui et son émotion que la quinzaine parisienne a quelque peu débuté. Rafa Nadal, l'Espagnol roi de Paris, 14 fois sacré à Roland-Garros, néo-retraité, célébré en début de tournoi cette année. Et voix de la bande-annonce officielle d'un Roland 2025 qui est sur le point de vivre son dénouement avec deux des successeurs désignés, en tout cas au sommet de la hiérarchie tennistique de Nadal, qui s'affrontent en ce moment en finale. Son compatriote Carlos Alcaraz, héritier désigné, tenant du titre, qui est pour l'instant mal en point face au numéro 1 mondial et peut-être qui va le rester longtemps et qui va peut-être se sentir un petit peu seul là-haut, tout en haut. Yannick Sinner, l'Italien, l'équipe tennis de Mondial Sport se réunit pour dire au revoir à tout ce beau monde sur RFI. Alice Froment, bonjour Alice.
Bonjour Hugo.
Notre jeune consoeur, en partie norvégienne, très déçue des performances de Casper Ruud peut-être.
Déçu. Après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, ça a été une quinzaine vraiment, vraiment superbe, donc il y avait de quoi se réjouir aussi.
Notre pépite béninoise nous a également retrouvés et a rejoint de nouveau notre studio. Callum Panzo, bonjour Callum.
Bonjour Hugo, pépite, ça c'est le cas de le dire.
En tout cas, représentant du Bénin sur les cours en Coupe Davis, voilà. Jeune joueur, 23 ans, semi-pro pour l'instant. Mais
semi-professionnel, mais...
Loïs Boisson, ça vous a donné quelques
elle
idées peut-être.
Elle m'a bien inspiré, on va en parler tout à l'heure.
On peut vite toquer et grimper les échelons.
Tout
parfois.
Est possible. Voilà.
Christophe Bernel, il a goûté de ce haut niveau, médecin, psychiatre. Spécialiste de l'aspect mental, ancien joueur pro, Roland 83, vous en souvenez, pour lui, il y avait un certain Yannick aussi qui avait fait parler de lui cette année-là, auteur également. Christophe, ravi de vous retrouver, bonjour.
Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec vous à Mondial Sport et oui, ce Roland-Garros c'est exceptionnel une fois de plus et c'est vrai que cette finale, elle n'est pas finie, hein. Alcaraz n'a pas dit son dernier mot.
Et bien justement, on va en parler avec la voix de la petite balle jaune sur les antennes de la Radio du Monde, Eric Mamrut, en direct du central de Roland, pas très loin de notre studio, on est presque à domicile en ce qui concerne Roland-Garros. Bonjour Eric.
Bonjour Hugo, bonjour madame, bonjour messieurs.
Où en est-on ? Yannick Sinner mène deux manches à une, mais Alcaraz a repris du poil de la bête.
Et oui, mais. Il était plus qu'à un set de son premier sacre parisien, Yannick Sinner, mais bon, il ne faut jamais enterrer Carlos Alcaraz. Hein. Comme l'Italien, il n'a jamais perdu de finale de Grand Chelem. Hein. En quatre tentatives, à chaque fois, il a raflé le titre. Donc, il ne va pas laisser sa Coupe des Mousquetaires comme ça filer en Italie sans se rebeller. Il est certes mené deux manches à 0, 6-4, 7-6. Il était mené 1-0 break en début de troisième set. Mais voilà, on l'a eu la réaction du gars de, petit gars de Murcie. 4 jeux à 2, il est au service, il a un break d'avance pour essayer d'aller totalement relancer cette finale en remportant la troisième manche. Il y en a eu des renversements de situation dans l'histoire de Roland Garros. Tout récemment, Stefan Tsitsipas, il y a 4 ans, menait 2 manches à 0 contre Novak Djokovic. Le Serbe a fini par l'emporter en 5-7. Avant cela, il faut remonter à 2004, la finale 100% argentine, la seule de l'histoire entre Guillermo Coria et Gastón Gaudio. Gastón Gaudio l'avait emporté après avoir été mené 2-0. Donc peut-être que d'ici l'émission, la fin de l'émission, chers amis, on n'aura toujours pas le vainqueur.
Et on aura peut-être 2 manches partout. En effet, c'était accroché déjà l'an passé également, avec la victoire finalement assez renversante aussi de Carlos Alcaraz, Alice Froment. Alcaraz, vous vous attendiez à le voir aussi bousculé par certes celui qui est peut-être une tête au-dessus, ne serait-ce qu'au classement ATP, Yannick Sinner, mais vous attendiez un tel déséquilibre, hein, 6-4, 7-6, on n'est pas sur une volée, mais vous attendiez à voir Alcaraz sur ce qui était un petit peu son tournoi de prédilection, être aussi bousculé.
Alors c'est vrai que Roland, ça peut être le tournoi de prédilection de Carlos Alcaraz, même si après la demi-finale que Yannick Sinner nous a proposée contre Novak Djokovic, on pouvait vraiment s'attendre à ce qu'il soit bousculé. Carlos Alcaraz, il n'a pas été au terme, si je puis dire, de sa demi-finale contre Musetti, puisqu'il y a eu un abandon. En revanche, Yannick Sinner, lui, a vraiment pu se tester face à Novak Djokovic et il arrive vraiment extrêmement chaud, je pense qu'on peut le dire, au vu du début de cette partie. Et voilà, Carlos Alcaraz a mis un peu plus de temps à se mettre en route. Mais bon, c'est pas fini.
Alors, vous êtes un peu... je suis obligé quand même de dévoiler que votre pronostic, c'était plutôt sur Alcaraz, Alice Froment. Donc, vous êtes quand même un petit peu surprise.
Un petit peu surprise, mais j'avais aussi dit que ce serait vraiment...
Ça
pouvait être très serré. Donc,
bon, très bien. Alors, votre honnêteté vous honore, ma chère Alice. Christophe, comment ça peut se passer pour un Carlos Alcaraz qui, normalement, devrait être un peu chez lui? C'est lui le tenant du titre, il devrait un peu défendre son territoire. Et là, c'est-à-dire qu'il y a un envahisseur, on ne va pas utiliser ce genre de mot, mais il y a clairement quelqu'un qui vient un peu le déloger en disant « c'est moi le patron ». C'est un peu comme ça que ça s'est passé sur les 2 premières manches.
Disons que en début de première manche, Alcaraz a très bien joué, il a même breaké en début de première manche, mais après il a eu un gros trou, et c'est souvent ça en fait. Alcaraz, quand il joue très bien, je pense que personne ne peut le battre, mais il a des trous. À la différence de Sinner, qui est, tout le monde le dit, c'est un peu une machine. Il joue toujours pratiquement à un niveau incroyable. Mais Alcaraz, parfois, il arrive à dépasser ce niveau. Mais il faut juste qu'il arrive à faire 3 sets comme ça, Alcaraz. Là, il est en train de faire sûrement le 3e set. Après, il y en a 2 autres à faire. Tout dépend d'Alcaraz, en fait. Mais c'est très dur. Sinner l'oblige à jouer son meilleur niveau. Et on va voir.
Calum Panzo, ça ne vous surprend pas de voir Sinner justement à ce niveau-là? Vous aviez misé en coulisses sur la machine Sinner.
Exactement. Sinner, lui, c'est le numéro 1 mondial. Donc, il affronte celui qui a les clés du tournoi là actuellement. Donc, c'est Alcaraz. Il a roulé sur tout le monde lors de cette quinzaine. Il n'a pas perdu un set, comme pouvait le faire Rafa à l'époque. Oui, Alcaraz, il varie énormément. Tennistiquement parlant, c'est prodigieux ce qu'il arrive à faire, mais il manque parfois de constance. Donc bon, Sinner, lui, il l'est. Donc je pense que Sinner, il va gagner en 3 ou 4 sets.
Mais ça veut dire que Sinner, c'est quoi son point faible? Parce qu'en fait, on aurait pu croire, c'était un peu le cas pour les Djokovic ou les Federer à l'époque. Quand ils affrontaient Nadal sur la terre battue, la terre battue, c'était pour Nadal. Mais là, on a l'impression que lui, il n'y a pas de surface qui peut laisser à un autre adversaire. Il peut gagner partout.
Il me semble polyvalent parce que il est complet sur pas mal de surfaces. Il n'a pas encore gagné à Wimbledon, mais ça ne serait peut-être tardé, on va voir. Et à chaque fois qu'il participe à une finale, il gagne en Grand Chelem, il gagne à chaque fois. Donc là, il est en train de gagner, donc espérons que ça dure.
Christophe.
En Paris.
Oui, et puis je pense que Sinner a un mental exceptionnel. Parce que là, je parlais d'Alcaraz. Même au niveau mental, Alcaraz a des hauts et des bas. Et Sinner a montré sa force mentale contre Djokovic en demi-finale, qui a joué très très bien. Djokovic, c'est impressionnant le jeu qu'il a fourni à 38 ans. Et il a eu des balles de set, et Sinner était toujours là, et mentalement, c'est très très fort. Tout le public était pour Djokovic, c'est très très fort.
Alice.
C'est vrai que le mental de Sinner est vraiment très impressionnant. Avant, ce qu'il pouvait peut-être pêcher, éventuellement, c'était le physique, où on sentait qu'il y avait des blessures qui étaient parfois un petit peu inopportunes. Mais mentalement, il a vraiment franchi un cap il y a 2 ans. Et on a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Alors parfois, effectivement, on le taxe d'introverti, quelqu'un qui ne montre pas trop ses émotions. Mais en même temps, c'est cette efficacité-là qui lui permet de rester extrêmement concentré sur une durée de match et contre des adversaires qui lui, comme tu l'as dit Christophe, qui pour la demi-finale lui propose un jeu incroyable, mais lui est capable à chaque fois de hausser son niveau, répondre. Donc c'est vraiment une force mentale incroyable, là où peut-être effectivement Alcaraz pêche encore un petit peu, mais Alcaraz a 2 ans de moins.
Et Alcaraz, il mène dans cette troisième manche. Donc, Sinner n'a pas encore remporté cette finale de Roland-Garros. Un petit point, Eric Mabrut, sur le central.
Alcaraz sert à l'instant pour le gain de cette troisième manche. 5-3 en sa faveur. Bah, il a déjà perdu plusieurs reprises son engagement, notamment il avait pris le service de Sinner justement au début de match, alors que les premiers jeux avaient été très 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 serrés, très longs, très très serrés. Il avait fait le break à sa 7e occasion. On se disait ça y est, il est lancé l'Espagnol. Pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il a un petit peu dégroché. Et effectivement, il est assez coutumier du fait. Carlos Alcaraz, il a perdu 4 manches depuis le début de ce tournoi, un 7 par-ci, un 7 par-là, bon, à chaque fois, et 4 fois, il s'imposait en 4 sets, effectivement, l'arrivée, et on lui a posé la question, mais ça vous inquiète pas, c'est haut et c'est bas, en conférence de presse, il dit non, moi j'ai le temps, c'est un match en 5-7, je m'inquiète pas trop, effectivement, je peux avoir des passages moins bien, mais je sais que je peux revenir. Bon, effectivement, les matchs en 5-7, c'est vraiment tellement différent que les tournois habituels où il faut être à fond un peu tout le temps, très très régulier. 2-7, vous perdez 2-7, vous avez perdu. Donc il y a une gestion totalement différente. Et même si Carlos Alcaraz n'a jamais gagné un match après avoir été mené 2-7-0, il pourrait très bien le faire. Hein. Il est qu'au début de sa carrière, il n'a que 22 ans. Donc on est peut-être parti pour des sommets, 15 partout, c'est un jeu crucial là, parce qu'effectivement là il doit enfoncer le clou, concrétiser, ne pas connaître un nouveau creux, sinon Sinner il ne va pas se gêner, il ne va pas passer devant, il va aller chercher le titre.
Vous nous interrompez hein, quoi qu'il arrive quand le jeu s'interrompt et si éventuellement Alcaraz revient dans la partie en remportant ce set. Christophe, vous leviez la main.
Oui, j'ai envie de faire un lien avec la finale des femmes l'année dernière parce que Sabalenka est numéro 1 mondial, elle a 3 titres du Grand Chelem comme Sinner. Et on voit la grosse différence, c'est que Sinner a un mental d'acier et on a bien vu que Sabalenka...
L'année dernière, vous voulez dire plutôt hier?
Hier, pardon, j'ai dit l'année dernière, complètement. Hier,
Sabalenka, oui, qui s'est écroulée mentalement, on va en parler tout à l'heure.
Mentalement, absolument. Oui, non, c'est juste faire un lien. Je pense qu'elle l'a perdu énormément mentalement, cette finale. Et Coco était très, très forte mentalement.
On va écouter un autre membre de la team, de l'équipe Mondial Sport, Karim Baldé. Il était avec nous hier pour parler basket. Bon, il n'était pas dispo aujourd'hui, mais il nous a quand même laissé un petit message sur WhatsApp.
Chez les hommes, finalement, on n'a pas eu tant de surprises que ça, parce que les deux meilleurs mondiaux sont en finale, parce qu'il y a une classe d'écart avec les autres, parce que Djokovic a quand même réussi à aller en demi-finale. On sentait quand même qu'il était sur le chemin du retour avec sa victoire à Genève, il l'a confirmé. On a senti toute l'expérience du joueur serbe. Et pour le reste, finalement, les Français d'ailleurs, un petit mot sur eux, les Français qui ont globalement déçu Arthur Fils, malheureusement, qui a dû s'arrêter de manière prématurée. Et derrière, hormis les quelques coups d'éclat des premiers tours, Gaël Monfils, ça fait toujours plaisir de le voir jouer, il est toujours spectaculaire. Mais il y a quand même un bilan, je trouve, assez décevant du côté des joueurs français. Après, pour le reste, on a eu quand même un tournoi de bonne qualité, de bonne facture, malgré la fraîcheur. Ça, c'est vrai que ça a été un Roland-Garros assez frais d'un point de vue climatique. Et puis, le vent aussi qui a joué des tours à certains. Malgré cela, on a quand même eu un beau Roland-Garros, je trouve, avec les numéros 1 et numéro 2 mondiaux chez les hommes comme chez les femmes, dans les finales. Et on aime bien quand la hiérarchie est bousculée, mais c'est aussi bien parfois d'avoir les meilleurs du monde dans ces moments clés, dans des finales de Grand Chelem. Et voilà pourquoi ce Roland-Garros a été très suivi cette année.
Karim Baldé, qui est ravi d'avoir les deux ténors en finale. Vous êtes d'accord, Callum Ponzo, à un moment donné, il faut aussi apprécier ça, avoir les deux meilleurs qui montrent qu'ils sont les meilleurs en étant en finale du Grand Chelem. C'est un peu un tournant peut-être aussi dans leur règne à eux. Voilà, on va s'habituer à les avoir en finale, peut-être quasiment tous les tournois dans les années qui viennent.
Comme l'ont fait leurs prédécesseurs, les 20 dernières années, les Grands Chelem, ils étaient pour eux. Donc, ils vont essayer de faire pareil, je pense. Numéro 1 et 2 mondiaux en finale, c'est la logique des choses. Donc là, elle est respectée. Donc voilà.
Alice Froment, oui. C'était pas l'année où il fallait une surprise, il fallait plutôt une confirmation.
Une confirmation, oui, peut-être. Et puis aussi, c'était une de ces années où on voulait absolument voir les numéro 1 et numéro 2 s'affronter, surtout ici à Roland-Garros.
Donc ça donne un caractère spécial peut-être à ce cru 2025. Eric Mamrut.
Le débreak. Sinner a repris le service de Carlos Alcaraz. Vous voyez, c'est un peu à l'image de toute cette finale. Au moment où il doit serrer, taper du poing sur la table, Carlos Alcaraz, eh bien, il lâche un peu, des coups un peu approximatifs. Sinner, évidemment, il attendait pour en revanche, eh bien, résister et le pousser jusqu'au bout dans ses retranchements. Il refait son retard, 4 jeux à 5. Mais il n'y a plus de break et donc Yannick Sinner est relancé. Il va serrer maintenant pour égaliser à 5 jeux partout. On se rapproche du dénouement de ce troisième set. On va voir comment Carlos Alcaraz va réagir ou pas une nouvelle fois. Lui qui n'arrive véritablement pas à prendre les choses en main dans cette partie.
Contrarié dans sa remontada, là c'est la peur de gagner. Christophe Bernel, vous qui savez un peu ce qui se passe dans la tête des joueurs, pourquoi il n'a pas confirmé cette avance qu'il avait là dans cette troisième manche qui aurait pu lui permettre de recoller, revenir sérieusement dans ce match?
C'est sûr que là, il avait une occasion unique de gagner le set, donc il y a une certaine pression. C'est vrai que dès qu'on se dit il faut que je gagne ce jeu absolument, tout de suite on est plus tendu, plus crispé. Et il faut arriver, l'idéal au tennis, faut arriver à oublier le score, ce qui est très difficile, être centré uniquement sur sa tactique, comment on fait pour gagner les points. Et là, je pense que ça lui a dû lui jouer un tour. Et puis bon, il y a eu Sinner qui a quand même fait des points incroyables là pour breaker.
Callum. Joueur qui est régulièrement sur le court, vous confirmez. C'est en fait ce qui se passe dans la tête d'Alcaraz, c'est super compliqué parce que il doit oublier qu'il a perdu les deux premiers, il doit pas avoir peur entre guillemets de gagner le troisième. Enfin, c'est racontez-nous un petit peu de l'intérieur.
Il est bien préparé mentalement, il a une bonne équipe autour de lui, donc je pense qu'il y aura pas de souci à ce niveau-là pour lui, mais c'est clair que il faut savoir avoir des visualisations positives dans ces moments-là pour pouvoir s'écarter un peu mentalement du moment, voilà, de ce moment-là qui est assez stressant. Il faut se propulser ailleurs.
Est-ce que si je vois plus large, comme c'est un peu un acte fondateur cette finale de ce règne Sinner Alcaraz qui se profile sur le circuit en général, Alice Froment, est-ce que ça risque pas de lui mettre un coup sur la tête comme ça, d'être si d'aventure elle venait à être balayée entre guillemets sur sa terre battue de Roland par Yannick Sinner pour l'avenir?
C'est possible, mais en même temps, comme Callum l'a dit, il est bien entouré, il est jeune encore, il a le temps de confirmer sa carrière qui est déjà exceptionnelle à cet âge-là. Après, voilà, il a aussi de très bonnes bases à Wimbledon. C'est un euphémisme. Hein. On est quand même sur deux tournois du Grand Chelem gagnés sur gazon, un US Open. Et puis, dans le head-to-head, hein, c'est Alcaraz qui mène pour l'instant. Pour l'instant, cette victoire à 4. Donc, oui, ça peut l'affecter, mais je pense qu'il en faudra plus quand même.
Et il en faudra justement plus parce qu'il pourrait remporter le set. Finalement, il s'est bien remis, Carlos Alcaraz. Eric Mamrut.
Oui, parce que Yannick Sinner a aussi quelques petits trous à droite à gauche.
On lui a porté l'œil.
Faute. voilà, il la porte est entrouverte un tout petit peu. Carlos Alcaraz, pour l'instant, a du mal à véritablement mettre le pied dedans. Mais il y a une petite place quand même. On a un très bon Yannick Sinner, mais pas totalement souverain. L'idée peut-être de remporter son premier Roland-Garros aussi, c'est pas simple à gérer. Attention au coup droit de Carlos Alcaraz. Il monte au filet, la volée, elle est gagnante. Et voilà, cette partie est relancée. Il remporte ce troisième set 6-4 au milieu du central. Il harangue le public qui évidemment est ravi. Hein. Cette finale va se prolonger avec son geste habituel. Hein. Vous savez maintenant ce doigt derrière l'oreille. Hein. Je peux vous entendre m'acclamer. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait là ? Eh oui, j'ai relancé cette partie. Vous me pensiez totalement au bord de la rupture. Vous alliez m'enterrer. Ben non, je ne me rendrai pas. En tout cas, je vais combattre jusqu'au bout. On sait que c'est un combattant, un incroyable combattant, le numéro un mondial, le plus jeune de l'histoire. Hein. C'était en 2022 quand il avait gagné l'US Open à 19 ans et 4 mois. Maintenant, ça va commencer cette finale. Maintenant, ça va être la grosse bataille, peut-être que l'on espérait.
Bon, là, Callum, comment on se sent quand on a. Voilà, il a réussi à entamer sa remontada. Il y a un avantage, même s'il n'a pas l'avantage au score.
En fait, ça met la pression à Sinner. Là, il a un coup de boost. Et son fighting spirit, là, il est à son comble. Donc, ça va. Sinner, il a intérêt à vite l'enfoncer dès les premiers instants du début du quatrième. Sinon, Alcaraz, il va saisir sa chance, là.
Christophe, on est dans ce que racontait Eric tout à l'heure. Vraiment, la bataille de terre battue, possiblement en sac manche. Vous meniez au début, puis là, l'autre revient, alors que vous étiez parvenu à stopper un petit peu sa remontée. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Ça peut durer longtemps. Ça va être une grosse bataille et formidable pour le spectacle. Mais alors, pour les joueurs.
Oui, là, le début du quatrième set est fondamental. Hein, là, c'est sûr que. Parce que là, Alcaraz. Là, il est chaud comme la braise, là, maintenant. Hein. Donc, il est vraiment dans son tennis. Il va falloir un très, très grand Sinner pour l'empêcher de gagner cette quatrième set, hein, à mon avis. Hein. Ça, c'est sûr.
Vous voyez ça comment, Alice Froment ? Vous êtes contente en tant que spectatrice, là ?
Oui, je suis contente en tant que spectatrice parce que forcément, le match se prolonge. Après, c'est vrai que comme Sinner a pu gagner les matchs précédents beaucoup plus rapidement qu'Alcaraz, peut-être qu'il a un peu l'edge physique, mais... dans le même temps, on sait que Alcaraz, les batailles en 5-7, ça lui fait pas forcément peur. Il va falloir qu'il essaie de confirmer sa remontée. Ça va être compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais réussi à remporter un match comme ça en étant mené 2-7-0.
Allez, nous aussi, on se remet de nos émotions sur RFI dans Mondial Sport avec un peu de musique et ça se prolonge, la finale de Roland-Garros. On la vit en direct et puis on va parler un petit peu du reste, faire le bilan du reste de ce grand tournoi de tennis, le grand tournoi parisien de Roland-Garros. À tout de suite.
Shut the gallery. Can you handle me? Handle me carefully. I'll be yours to keep. I'm your centerpiece. Make the canvas speak. When you draw me in, look at what you started. Go with your hands, can you paint my body? Go ahead and brush up on me. Baby, when you want it, sign it, dot it.
Et là, sur RFI dans Mondial Sport, Roland Garros, la finale homme à la une. Sinner, Alcaraz, Sinner qui mène 2-1, mais Alcaraz a remporté le dernier jeu. Donc c'est un peu relancé, c'est même beaucoup relancé, on l'espère. Ce qui nous laisse un petit peu de temps pour revenir en arrière. Et Christophe Bernel, qui fait partie de nos invités, me chuchotait à l'oreille que peut-être Sinner, ils sont un peu le contre-coup de sa demi-finale épique contre un certain Novak Djokovic.
Et c'est terminé. Yannick Sinner est en finale de Roland-Garros. après 3h20 de combat.
Voilà, c'était vraiment un gros match. Là. Franchement, on a assisté vraiment à un énorme combat de joueurs qui ont joué vraiment un très très beau tennis. Ah, rien à dire, Yannick Sinner, il est vraiment très fort.
Et malgré le niveau de jeu incroyable de Djoko, il a pris 3-0.
Hein ? Djokovic battu donc en finale, en demi-finale, dans sa route vers la finale plutôt par Yannick Sinner, ce qui pose un petit peu le niveau de Yannick Sinner de barrer comme ça la route à un Novak Djokovic qui, comme les autres, doit un peu laisser sa place à la nouvelle génération. Il est en quête néanmoins, il reste en quête de ce 25e Grand Chelem qui le placerait tout en haut du panthéon tennistique à travers les âges et les genres. Callum Panzo, est-ce que c'était la dernière occasion, la dernière fenêtre? Il y a peut-être Wimbledon qui arrive, mais est-ce qu'il y a un petit goût d'inachevé par rapport à Djokovic?
Alors ça, seul lui peut le savoir. Maintenant, je pense que tout au long du reste de l'année, il va tenter.
Et là, il vous a impressionné? Là, vous sentez qu'il a ça en lui?
Parce qu'à la dernière émission, j'ai le souvenir d'avoir dit que Novak, je ne l'ai pas placé dans mon top 5. Voilà, j'ai été mauvaise langue, je tiens à le dire. Il m'a surpris parce qu'à 38 ans, réussir à faire ça... C'est tout bonnement prodigieux, donc respect. En plus, il exprimait sa gratitude envers tout le public. Franchement, j'apprécie énormément.
Christophe Bernel, ce Novak Djokovic éternel.
Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai été très impressionné par la performance de Djokovic, et je pense qu'il sera là à Wimbledon, parce que Wimbledon, il en a quand même gagné 7 et il a perdu les deux dernières finales contre Alcaraz, dont celle de l'année dernière, où il ne faut pas oublier qu'il venait de se faire opérer un mois avant du genou, ce qui est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment une surface qu'il adore. Et je pense qu'il a sa chance à Wimbledon.
Il vient de fêter ses 38 ans, Novak Djokovic. Voilà, la nouvelle génération, soit c'est Alcaraz, soit Sinner, le malmène. Il sait aussi les malmener en finale, notamment du dernier tournoi olympique. Justement, sur le cours de Roland-Garros, Alice Froment, Novak Djokovic, il a fait partie des grands acteurs de ce Roland 2025. Ça fait du bien de voir la nouvelle génération prendre le pouvoir, mais aussi l'ancienne s'accrocher et éventuellement viser ce record extraordinaire qui n'est pas encore perdu.
Non, il n'est pas encore perdu, mais ça va devenir de plus en plus difficile d'aller le chercher. Une fois encore, on l'a vu sur ce tournoi, même si, comme Christophe, comme Callum, j'ai été impressionné par le niveau de jeu qu'il a su proposer. Alors, on était en direct la dernière fois quand il venait de gagner Genève, et à partir de ce moment-là, je pense que aussi avec Karim Baldé, on s'était dit bon, effectivement, il revient en force là. Donc, c'était pas surprenant de le voir en demi-finale, si, parce que effectivement, il n'avait pas remporté de tournoi avant Genève. Et en même temps, voilà, comme dit Christophe, le voir à Wimbledon, ça va être aussi très intéressant, parce que certes, il a perdu les deux dernières finales, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Enfin, ça s'est pas joué à grand-chose.
Ne pas enterrer le Novak Djokovic. Christophe Bernel, vous levez la main, mais je vous donne la parole juste après, parce qu'on va juste faire un petit détour par d'autres finales qui se disputent dans d'autres sports. On a parlé basket hier, tennis aujourd'hui, et bien un peu de football aussi ce dimanche dans Mondial Sport.
Mondial Sport.
Olivier Pron, bonjour. Vous avez même deux finales à nous proposer en ce qui concerne le football, c'est ça?
Oui, la petite et la grande, c'est ça?
Ouais, parlez-nous de la petite Ligue des Nations.
De la petite.
Et la France qui bat l'Allemagne.
Je rebondis juste une toute petite seconde. Djoko, il va se concentrer à 100% sur Wimbledon. Assurément, à mon avis, cette année et la saison d'après, parce qu'il n'y a plus que ça qu'on peut gagner. C'est un avis.
D'accord. C'est pas encore pour. C'est pas cette année qu'il faudra l'enterrer.
Moi je suis sûr que l'année prochaine, il axera sa saison sur le gazon, parce que, comme il le dit lui-même, la différence est plus fine entre lui et les autres sur cette surface qu'elle ne l'est aujourd'hui sur d'autres surfaces. Mais revenons-en à l'équipe de France et à cette petite finale emballante d'une compétition qui nous plaît tous, bien sûr, la Ligue des Nations. On s'y est jamais autant intéressé. La victoire bleue importante après la déroute de jeudi face à l'Espagne, malgré un soupçon de remontada à Stuttgart cet après-midi. Les Bleus donc sans Dembélé, Barcola ou encore l'Anglais en défense, on les a pas regrettés, a été franchement mauvaise et ultra dominée en première période. Mais faute de réalisme, la Mannschaft s'est fait cueillir quand même, juste avant la pause, sur un but de... Allez, là.
Le capitaine.
Oui,
pas encore ballon d'or, mais capitaine.
Sur un but de Mbappé, bien sûr, intérieur du pied. Petit filet, la classique. 50e but en bleu pour Kylian à l'occasion de sa 90e sélection. C'est quand même pas mal. 1-0 à la pause contre le cours du jeu, on l'a compris. La deuxième mi-temps a été bien meilleure. Conclu en fin de match par un but de Michael Olise sur une passe de...
Mbappé.
Ouais.
Quel bien succès. Joué, Christophe Bernard.
Bien joué, bien joué. Le meilleur buteur de Liga, très altruiste hein, sur ce coup-là. Il aurait pu terminer tout seul. Il offre son deuxième but en bleu à Olise, meilleur buteur, meilleur passeur, lui, de Bundesliga avec le Bayern. 2-0, donc score final. Comme dit Didier Deschamps, à la fin du match, une grande pensée. Troisième, c'est mieux que quatrième. Je vous jure, je ne l'ai pas inventé. Il l'a vraiment dit comme ça. On est d'accord avec lui. Troisième, c'est mieux que quatrième. Prochain rendez-vous de l'équipe de France. Septembre, la course à la Coupe du Monde 2026. Ukraine, Islande au programme. On tremble. Pour ce qui est de la Ligue des Nations, on n'oublie pas la grande finale. Ce soir, quand même, le duel des Ibères, Portugal, Espagne en direct et en intégralité sur RFI, bien sûr. Notamment pour ce choc Ronaldo Yamal.
Soyez au...
Prise d'antenne 18h55.
Voilà, soyez au rendez-vous. Merci Olivier Pron. Nous, on en revient au tennis dans Mondial Sport sur RFI.
Elle est bonne aussi. Elle l'a fait. Elle l'a fait, Coco Gauff. À 21 ans, elle remporte pour la première fois le titre ici à Roland-Garros. Et surtout un deuxième titre en Grand Chelem après l'US Open en 2023. Exceptionnel. À quel moment d'émotion, j'ai regardé sa maman qui a sauté de joie. Elle fait des sauts cabris pour sa fille. C'est tellement émouvant aussi quand on a son enfant comme ça, de le voir gagner sur ce court. Elle a été à la bagarre, elle a été chercher ce match, cette finale. Coco Gauff, tellement courageuse, une immense championne qui a fait lever tout ce court. Philippe Châtrier, regardez sa maman, ça me donne les larmes aux yeux. On est pas loin. Vous avez dit qu'il était là, son papa. Il était pas loin. On n'est pas loin de pleurer aussi parce que elle est toute jeune, Coco Gauff.
Yeah, I don't know what I do to deserve so much love from the French crowd, but I appreciate you guys, so merci beaucoup.
Merci beaucoup Coco Gauff en français, elle entame sa love story avec Paris, la jeune américaine. On va parler de son sacre hier au terme de la finale dames, simplement refaire un tour vers la finale homme qui est en cours de manche à une pour Yannick Sinner face à un Carlos Alcaraz qui reprend du poil de la bête. Eric Mamrut.
Pas de break pour l'instant dans cette quatrième manche, un jeu partout. Entre les deux hommes, Carlos Alcaraz est au service. 15 partout, on a assisté quand même tout à l'heure à un petit événement puisque Yannick Sinner a perdu un set pour la première fois dans ce tournoi en comptant ceux qu'il avait remportés en Australie, à Melbourne. Il avait gagné le titre et ceux amassés précédemment à l'US Open qu'il avait également remporté. Il en était à 30 manches gagnées consécutivement. C'est le quatrième joueur de l'histoire à atteindre comme ça la barre des 37 remportés d'affilée en Grand Chelem derrière des certains Federer, McEnroe, Nadal et Sinner. Sinner qui sera donc à 37 d'affilée et on va voir s'il pourra en remporter un dernier là aujourd'hui parce que ça lui offrirait la Coupe des Mousquetaires. Il serait content.
Ah bah tant mieux alors si il serait content. Vous avez fait des grands gestes Callum Ponzo, qu'est-ce qui se passe?
Je suis bluffé par la performance de Yannick Sinner qui est aussi bon en coup droit comme en revers. Il frappe fort des deux côtés, quand on sent la balle comme ça c'est très dur en face, on est comme face à un mur, donc bon, on va voir Alcaraz comment il va faire. Il a de la ressource, on va voir.
On en revient à la finale dame. Christophe Bernel, vous en aviez touché un mot en première partie d'émission. La victoire de Coco Gauff face à Sabalenka, qui n'a pas été forcément la plus sympa des perdantes après en déclaration, qui expliquait que finalement elle avait plus perdu la finale que Coco Gauff ne l'avait remportée. Si je résume un petit peu ses propos, elle avait parlé d'une faillite mentale. Et le mental, c'est un peu votre spécialité. Vous en avez pensé quoi?
Oui, justement, là, toute son attitude pendant le match et dans son discours montre qu'elle ne travaille pas assez mentalement. Enfin, parce que travailler mentalement, c'est arriver à être focus tout en prenant du recul. Alors, c'est très difficile, hein, mais c'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Parce qu'une finale de Grand Chelem, ça se prépare en amont. Et donc, il faut être focus sur son jeu, mais arriver à prendre un peu de recul en se disant « ce n'est qu'un match de tennis ». Il faut arriver à se dire ça, même si c'est une finale de Grand Chelem. Ce que Coco Gauff, on le voit, moi je me rappelle quand elle avait fait finale contre Swiatek il y a 4 ans.
Déjà à Roland.
Déjà à Roland, elle passait son bac, elle disait qu'il n'y avait pas que ça dans la vie, etc. On sent qu'il y a, tout autour, elle arrive à avoir ce recul, tout en étant, bien sûr que c'est hyper important de gagner à Paris, elle avait envie de gagner, Coco. Et en fait, elle a été super calme. Elle perd le premier 7-6. Alors on peut se dire, y avait beaucoup de vent, c'était pas un très bon match au début. À la fin, c'est devenu vraiment de meilleure qualité, mais elle est restée imperturbable. Alors que Zabalenka, elle gagne le premier, et puis elle s'énervait encore avec le vent. Enfin, donc, elle a vraiment été très faible. Elle a été faible mentalement. Alors, pour une numéro 1 mondiale, ça pose question.
Ça pose question. Alors, parlons justement peut-être de la solide et suffisamment flegmatique Coco Gauff, Alice Froment. On a senti... elle a parlé de l'amour qu'elle avait reçu du public. Un amour mérité pour cette joueuse. Vous lui en donnez aussi un petit peu ?
Oui, je pense qu'elle a complètement mérité sa victoire. Elle arrivait quand même, Coco Gauff, avec des petites incertitudes et puis aussi la pression. Enfin, on sait que c'est cette joueuse américaine que tout le monde attendait depuis son plus jeune âge. Elle est arrivée à confirmer à l'US Open. Et quand elle est arrivée en finale à Roland-Garros, effectivement, elle a perdu contre Swiatek, une spécialiste. On ne le savait pas forcément encore à ce moment-là, mais enfin, quand même. Donc, elle n'a pas perdu contre n'importe qui. Mais c'est vrai que sur cette finale, elle réussit à garder un calme olympien. Et puis, elle avait aussi, en demi-finale, elle n'avait pas une tâche facile non plus. C'était celle d'affronter Loïs Boisson à Paris, avec un public complètement acquis à la cause de Loïs, et c'est bien normal. Donc, effectivement, elle a réussi à garder son calme. Elle avait peut-être un petit peu moins de pression qu'Arina Sabalenka, parce qu'Arina Sabalenka, elle arrivait une deuxième fois en ayant remporté l'Open d'Australie. Et bon, peut-être que dans sa tête, arriver à avoir le deuxième grand chelem de l'année, ça commence à faire un petit peu de momentum. Elle n'a pas réussi à maîtriser ses nerfs. C'est dommage pour elle, mais... je pense que Coco Gauff a remporté cette finale. Et c'est pas, enfin, Arina l'a perdu, Arina Sabalenka l'a perdu. Mais ce qu'a proposé Coco Gauff au niveau du jeu était aussi beaucoup mieux pensé, beaucoup plus posé.
Calum Ponzo, elle vous plaît, Coco Gauff ?
Oui, elle est d'un calme olympien. Je l'ai appelée Olympe tout au long de cette finale d'ailleurs, puisqu'elle ne s'est pas plainte une seule fois, elle a été positive.
Ça, mais c'est possible quand on est joueur de tennis.
Oui, c'est dur.
C'est dur.
C'est dur. Mais par contre, pour en revenir à Arina, moi je pense que... Ouais, je vais pas être très sympa envers Arina, mais moi, elle m'entendra pas, je pense.
Mais c'est comme okay, ça, là, vous voulez vous faire une place dans le circuit, mais... vous les appelez par leur prénom, j'ai bien compris. Puis
moi, je pense que quand on est numéro un mondial, on a quand même un standing à tenir. Il y a des propos qu'on peut pas dire. On doit montrer l'exemple, parce que là, c'est pas très sympa envers Coco ce qu'elle a dit. Et malgré la défaite, on doit quand même savoir sortir grand seigneur, même moi je sais le faire, donc Arina. Alors bon, voilà, donc quand même.
Voilà. Christophe.
Oui, t'as raison. Et d'autant plus, elle manque de lucidité, Sabalenka, parce que Coco, elle a joué de mieux en mieux. Parce qu'à la fin, au début, elle faisait pas mal de fautes, il y avait du vent pour les deux. Mais Coco, après, elle a joué de mieux en mieux, elle a attaqué bien. Parce que, justement, elle est restée mentalement vraiment stable et elle était concentrée sur son jeu. Et elle a réussi à élever son niveau de jeu. Et Sabalenka s'est complètement écroulée. Et elle n'a même pas été lucide. Il faut être lucide de voir que l'autre joue bien. Cette lucidité, c'est hyper important.
Éric Mamrut, la finale homme Sinner Alcaraz. Ouais, est-ce qu'Alcaraz... Oui.
Si je peux me permettre
bien sûr.
Dans le débat. Vous êtes un peu sévère à l'égard d'Arina Sabalenka, qui a quand même dit à deux reprises, au moment de la remise des trophées,
s'il vous plaît.
J'ai joué la pire finale de ma carrière.
Oui, que c'était mérité.
Voilà. Mais que Coco Gauff méritait sa victoire. Elle a beaucoup mieux géré les conditions et elle a redit en conférence de presse, Coco méritait sa victoire, elle a été meilleure que moi, notamment avec le vent, on ne sait pas pourquoi Arina Sabalenka s'est mise à totalement dégoupiller avec ses conditions qu'elle a jugées terribles. Bon, évidemment, oui, c'est ça la terre battue, c'est ça le tournoi en extérieur. Bon, il faut arriver qu'on est champion à composer avec. pourquoi hier elle a totalement dégoupillé alors qu'elle avait vraiment le match en main avec ces conditions-là. C'est vrai que Coco Gauff avait des schémas de jeu très précis, très clairs, était beaucoup mieux structuré dans sa tête qu'Aryna Sabalenka. Et au bout d'un moment, on savait plus trop quoi faire, mis à part taper comme une brute. Mais voilà, après, elle s'est aussi dévalorisée en disant « Ouais, j'étais très mauvaise, bon, voilà. Et je vais devoir bosser là-dessus. » Bon, maintenant, elle a dit « Bon, je vais aller sur une île grecque, boire de l'alcool et manger plein de bonbons et nager pour oublier. » Mais bon, voilà, c'est la marge encore... qu'elle doit franchir pour vraiment être la reine sur toutes les surfaces, car elle visait, et bien évidemment, on savait qu'elle était impitoyable sur les surfaces rapides. Si elle gagnait également sur terre battue, là, c'était vraiment, elle rentrait encore plus dans une autre dimension. Elle a pas su gérer ça. En fait.
Les bonbons et l'alcool et les îles grecques aussi, avec modération tout de même. Hein. On signale pour la finale homme, Eric. On en est où? Juste en 30 secondes, s'il vous plaît.
Ouais, Carlos Alcaraz a sauvé une balle de break contre lui, mais il a réussi à gagner son jeu de service. 40-0 Yannick Sinner sur son engagement. Donc pour l'instant, mano à mano, 2-1 pour Alcaraz dans cette quatrième manche. 3 balles de partout pour Sinner.
Quelqu'un peut réagir autour du plateau? Est-ce que ça sent bon la remontada, ou on voit quand même que Sinner, bah, il est loin de se laisser faire, Callum Panzo?
Moi, je pense que Sinner, il va verrouiller. Moi, je change pas d'avis. J'ai mis une pièce sur Sinner et il va verrouiller.
Donc ça, c'est le dernier set. Le quatrième sera le dernier set, selon
vous. Oui, je le dis.
Après, on pourra pas le vérifier dans l'émission, donc on peut jouer un petit peu au prono,
oui,
Christophe.
Oui. Je pense que Alcaraz va aller au cinquième set. Et va gagner.
Ah, c'est intéressant.
C'est vraiment très, très difficile de dire ce qui se passe dans la tête des deux hommes, là, vraiment. Ça va être serré jusqu'au bout. Je pense effectivement que Sinner a une... On parlait de calme, hein, tout à l'heure. Je pense que Sinner a une bonne mainmise sur cette quatrième manche, mine de rien.
Bon, en tout cas, on ne peut pas lire dans l'avenir. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est revenir sur un des événements passés extrêmement marquants de cette quinzaine parisienne.
Demi-finale de Roland-Garros face à la Russe Mira Andreeva, sixième joueuse mondiale en 2-7, 7-6-6-3. Incroyable pour cette joueuse invitée par les organisateurs du tournoi.
C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive et incroyable, Loïse Boisson s'impose aujourd'hui.
Ouais, c'est gagné pour Coco Gauff avec cette dernière faute dans la diagonale de Loïse Boisson, surclassée en 1h10, 6-1-6-2. C'est une fin abrupte pour la grande révélation et qui le restera. Le sourire, heureusement, il est là à la poignée de main, car il n'y avait rien à faire face à cette Coco Gauff là. Il aurait fallu retrouver la Loïse touchée par la grâce de son 8e, de son quart de finale.
Coco, what a performance.
C'est toujours le plan, hein, de démarrer très fort, évidemment. Eloïse est une joueuse incroyable aussi. Elle a eu un tournoi absolument démentiel. C'est une des meilleures joueuses du monde sur terre battue. J'espère qu'elle aura un très très bel avenir. C'est ce que je pense, en tout cas. Nous aurons, j'espère, de nombreuses batailles dans le futur, après cette journée d'aujourd'hui. Je sais que vous vouliez qu'elle gagne, mais félicitations pour son tournoi formidable. Aujourd'hui, c'était mon jour.
Quelle histoire, quel Roland-Garros 2025. Bonsoir Loïse Boisson, merci d'être avec nous, merci. Et qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images?
C'est juste incroyable. Jusqu'ici, je ne les avais pas revues encore. Voilà, j'étais hyper concentrée forcément dans mon tournoi. C'est incroyable de voir ce que ça a pu faire aux gens qui étaient là pour me soutenir et à tout le public, quoi.
Des limbes du circuit, enfin les limbes, 61e mondial au journal télévisé de 20h, et en passant par une demi-finale de Roland-Garros contre la future vainqueur Coco Gauff. Quel parcours pour la Française Loïs Boisson. Vous vouliez en parler, on avait prévu d'en parler, oui. Callum Ponzo, un peu la porte-voix ou le symbole, malgré elle, de tous ceux qui, comme vous, gravitent autour de l'élite, du circuit, se battent pour l'intégrer. Et une belle histoire, comme on en voit finalement pas tant que ça. Elle n'était pas prédestinée pour ne serait-ce que jouer ce Roland-Garros-là. Elle est arrivée dans le dernier quart et ça vous a touché.
Alors oui, parce que là, elle nous a montré que ce qui est difficile de faire est faisable. Donc, en fait, elle nous montre que rien n'est impossible. Parce que c'est dans les grands chelems, tout semble fermé. C'est très compliqué quand t'as pas le niveau, vraiment, quand t'es mal classé, tu tombes sur un ténor souvent d'entrée de jeu. Donc c'est très compliqué. Maintenant, là, le plus dur reste à faire pour elle. Il y aura beaucoup d'attentes, beaucoup de pression médiatique. Donc il va falloir qu'elle gère bien ça avec son entourage. Elle va pouvoir participer aux 4 grands chelems maintenant. J'espère vraiment qu'à Wimbledon, elle va pouvoir participer. Et je pense vraiment qu'elle peut faire de grandes choses si elle gère bien, parce qu'elle a une façon de jouer qui est différente des autres filles. Donc voilà, et moi, ça me redonne du boost. Je me dis que voilà, je peux le faire, voilà, j'ai 23 ans, voilà, elle vous le montre, hein, elle vous le montre.
Et vous aussi, peut-être un grand chelem un jour,
ouais,
alors.
Ça permet de
rêver, Christophe Bernel, vous qui avez touché au monde pro, pas très longtemps, mais justement, il a fallu vous accrocher 2 ans. Pareil, ça vous parle, ce parcours de Loïs Boisson?
Bien sûr, puisqu'elle avait une wildcard. Moi, j'avais aussi une wildcard en 83. Une invitation au tournoi, puisqu'on a un classement qui ne permet pas de rentrer directement dans le tableau final. Non, ce qui est exceptionnel pour Loïs, c'est qu'elle s'est fait opérer du genou il y a un an. Elle devait jouer Roland-Garros il y a un an. Elle se blesse gravement, opération du genou, et elle revient comme ça après plus de 8 mois d'absence. C'est exceptionnel. Et j'ai lu le chirurgien qui l'a opéré. Il a dit qu'il avait rarement vu. Il a opéré Ibrahimovic et plein d'autres grands sportifs. Il a dit qu'il a tout de suite vu le mental qu'elle avait, quoi. Elle voulait toujours, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça.
Là encore, c'est la tête qui a beaucoup joué.
Bien sûr.
Et la tête pour volonté. Rester sur ce nuage, enfin en tout cas pas redescendre trop violemment, ça va être
là,
dur.
Là, ce qui est important, c'est que ce qui est chouette, c'est qu'elle a des choses à progresser dans son jeu. Elle a déjà beaucoup de force, elle a un très bon service, elle a un très bon coup droit, mais elle peut énormément progresser au niveau du revers, au niveau tactique. Elle a des progrès à faire. Donc, il faut qu'elle se centre là-dessus, tout ce qu'elle a à progresser. Et puis, elle a un physique exceptionnel.
Alice Froment, en quelques mots. Le retour, je suis désolé.
Oui, non, mais puis c'est vrai que forcément, cette histoire-là de se dire, il y a un an, elle aurait pu jouer Roland et finalement, elle ne le joue pas. Et là, elle prend vraiment sa chance. Je pense que c'est ce qui a aussi vraiment plu à tout le public. Il y a eu un vrai engouement. Sa demi-finale qui a été contre la gagnante du tournoi. Au moins, elle pourrait se dire qu'elle a perdu contre la gagnante du tournoi. Mais voilà, il y a eu des pics à 6,4 millions de téléspectateurs. Donc ça prouve bien qu'il y avait envie de suivre ces matchs-là.
Éric Mamrut, 10 secondes, le score de la finale homme à l'instant T.
Pas de break pour l'instant dans cette 4e manche. 3-2 en faveur de Carlos Alcaraz, Sinner est au service. 15-0, le suspense total, donc après 3h30 de jeu. Moi, je mettrai une petite piécette sur Carlitos, le spécialiste de la terre battue, face à un Sinner qui est, lui, plus habitué aux surfaces rapides.
Et qui, pour l'instant, mène 2-1. Merci, Éric Mamrut. On vous retrouve très vite sur l'antenne de RFI dès le prochain journal. Merci à tous ceux qui ont participé et préparé cette émission. J'ai pas de temps de vous citer, mais c'est dommage.